7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, pour se parler au quotidien et pour vous servir aussi. Aujourd'hui, c'est le retour du coach. Bonjour Didier Akouété.
Bonjour Emmanuel.
Directeur d'Afrique Search, on vous retrouve une fois par mois chez les 7 milliards de voisins pour le rendez-vous des JPAG, hein, puisque maintenant on les a prénommés comme ça, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent. Leurs idées en général sont formidables, en tout cas moi je les trouve formidables parce qu'ils racontent tous l'extraordinaire mobilité, dynamisme, diversité du continent. Mais c'est vrai aussi qu'ils ne savent pas toujours comment les réaliser, normal, ils sont jeunes, vous avez de l'expérience, il s'agit de trouver du crédit, trouver des débouchés commerciaux, trouver un associé fiable ou tout simplement de se faire connaître. Et vous, vous avez quand même coaché quoi maintenant? Allez, des centaines de jeunes, hein, on peut
oui,
dire.
Oui, avec les années, oui.
Alors évidemment.
Coaché aussi moi-même.
Exactement, et vous avez appris de vos échecs.
Exactement.
Ça, ça compte aussi d'apprendre de ses échecs. Alors bien sûr, pour passer dans l'émission, il faut avoir un projet déjà structuré, bien préparé, avec un business plan. Et d'ailleurs, en fin d'émission, on parlera du business plan, puisqu'à chaque fois, on a un petit cours hein, sur un chapitre du business plan. Ça sera quoi aujourd'hui la chronique?
Ça sera le modèle économique.
Ah, quel modèle économique? Je vous entends souvent poser cette question, mais je n'ai pas bien compris quel est votre modèle économique.
Exactement.
En gros, comment vous allez faire rentrer de
comment
l'argent dans la caisse quand même?
Tout à fait.
Et évidemment, les voisins et les voisines, si vous nous appelez, vous devez nous convaincre, hein, quel que soit le secteur de votre projet, que ce soit un projet dans le numérique, dans l'agro-business, dans la culture, dans le social. Ces derniers mois, l'émission s'est déplacée à Dakar, à Bamako, on est allé aussi à Abidjan. Mais aujourd'hui, vous pouvez nous appeler où que vous soyez sur le continent pour défendre vos projets au 33 1 84 22 71 71. C'est Camille Nérand qui reçoit vos appels et qui vous aide aussi à parler de vos projets. Et parmi les projets, on a une voisine qui est dans le studio aujourd'hui, qui s'appelle Sandrine, qui est franco-tchadienne et qui veut dialoguer en direct avec le coach. Appelez-nous en tout cas pour les autres, 33 1 84 22 71 71. Didier Akouété, je crois que vous revenez tout récemment d'un diagnostic de peau à Abidjan.
Bah, vous ne voyez pas que je suis encore plus beau qu'avant,
Emmanuel.
Vous avez
Emmanuel. Très bonne mine, Didier.
Non, effectivement, vous vous souvenez que nous avions reçu dans l'émission Sandrine qui développait des produits naturels, des produits pour la peau à base de plantes naturelles, le produit naturel
à Abidjan.
Nature et Tradition. Et qui a ouvert sa première boutique.
Qui avait le projet d'ouvrir, hein, qui démarrait, et ça y est.
Exactement.
On a reçu les photos, magnifiques.
C'est fait, j'y suis allé. Et effectivement, c'est un très beau site, quoi. Là, il a fait un très joli magasin, avec en plus de quoi faire des tests sur les peaux des visiteurs, des clients. Et je trouvais extrêmement intéressant dans son plan développement, parce que c'est vrai, on conseille souvent les porteurs de projets ou ceux qui ont déjà développé un business sur la manière d'amplifier les premiers succès qu'ils ont eus. Et effectivement, elle s'est positionnée sur un segment assez original, auquel il fallait donner la visibilité. Comme en plus c'est fait les produits qui luttent contre le blanchiment, c'est vrai du coup les pharmaciens ayant ces produits dans leur rayon.
C'est pas juste une simple boutique, hein, il y a un vrai
projet
derrière.
Exactement, donc c'était pas facile forcément de se faire référencer dans nos pharmacies. Et donc c'était bien quel est son point de vente pour montrer qu'elle fait autre chose que les produits qu'on a des pigmentations, mais beaucoup de produits pour la beauté.
Ça bouge vraiment du côté des jeunes, du côté de l'entrepreneuriat sur le continent africain. C'est indéniable aujourd'hui, Didier.
Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est vraiment à l'image de l'Afrique, hein, parce qu'on dit que l'Afrique bouge de temps à autre. C'est un peu, on dit, c'est une vue de l'esprit. Mais effectivement, quand on est sur le terrain, on voit vraiment des jeunes qui entreprennent, en plus dans différents domaines. C'est ça qui est extrêmement nouveau.
Et ben on va le constater aujourd'hui.
Exactement.
Justement.
Et en plus,
alors,
est un bon
depuis
révélateur.
Le temps qu'on fait cette émission avec vous, on dit beaucoup aussi aux voisines de téléphoner, de se lancer, de nous parler de leur projet, parce que parfois elles disent « Ah oui, j'ai un petit projet, mais je ne sais pas si ça tient la route. » Et elles ont elles-mêmes aussi de très beaux projets. On est ravis de vous accueillir, Sandrine, une autre Sandrine. Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Bonjour,
alors,
Didier.
Vous êtes franco-tchadienne, donc à l'heure actuelle, vous vivez à Paris. Vous avez 25 ans, mais vous avez déjà monté votre propre société de communication digitale depuis 2 ans. Donc, une petite expérience, hein, déjà, on va dire.
Exactement.
Et vous avez fait des études en France de géographie, École nationale de l'assurance, École de commerce. Et vous avez un projet, alors lui qui n'a pas encore démarré, N'Djamena.
Hein, tout à fait.
C'est de monter un incubateur spécialisé dans l'accompagnement de jeunes médias, hein, de jeunes qui veulent lancer des médias. Expliquez-nous.
Alors donc, cette idée est partie vraiment de ce que je faisais déjà avec notamment le blog et le média social qu'on a lancé ici.
Vous êtes aussi une mondo-blogueuse, hein, il faut le préciser.
Tout à fait, c'est aussi ça qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et donc, on est parti de l'idée qu'il y avait beaucoup de projets au Tchad de jeunes, surtout orientés nouveaux médias, qui avaient besoin d'un accompagnement et surtout de donner de la visibilité. Donc c'est ainsi que je me suis associée avec un WinaClub, donc, qui est un espace de coworking orienté technologie au Tchad, qui a démarré un peu de façon informelle pour vouloir vraiment axer un projet ou un espace du moins qui puisse vraiment accompagner ces jeunes-là qui ont des idées mais qui ne savent pas comment le faire.
Mais alors ces jeunes qui ont des idées, c'est quoi? C'est un désir d'expression? C'est quoi cette nouvelle génération de jeunes médias au Tchad?
Ce sont tout simplement des jeunes qui ont vu qu'ils n'ont on peut plus compter sur le gouvernement, voilà, et on est obligé de faire les choses par soi-même. Et donc moi j'étais partie là-bas quand j'étais en vacances, hein, pour voir la famille, et j'ai pu voir que malgré tout, et avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils arrivaient quand même à faire des choses incroyables. Et je me suis dit, c'était de mon devoir de les accompagner. Je parlais notamment d'un jeune qui m'a vraiment bluffé, donc qui fait beaucoup de projets dans tout ce qui est dessin. Donc qui arrive à faire du digital painting, un jeune qui aujourd'hui est un grand youtubeur tchadien, donc Ghislain, qui fait des choses incroyables.
Bon, on le salue en même temps. Hein. Bonjour Ghislain, si vous nous écoutez.
Si tu m'écoutes, effectivement. Et donc voilà, ce sont des exemples, il y en a plein, hein, de ces genres d'exemples-là qui sont là, qui font des choses incroyables.
Des jeunes hyper talentueux.
Tout à fait, qui sont talentueux mais qu'on ne voit pas et qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se disent si on ne me voit pas et si on ne parle pas de moi, pourquoi aller plus loin? Donc je fais quelque chose mais je reste dans mon coin.
Mais alors comment ça fonctionnerait cet accompagnement auprès de créateurs de médias?
Alors déjà, donc, ce serait d'avoir un espace. Donc, je reviendrai peut-être après sur la partie espace de coworking parce que c'est notre business model, mais on en parlera après. Mais c'est un espace où vraiment on va déjà les recevoir, donc comme ils sont, ils viennent comme ils sont, avec leurs idées, et nous on va les définir. Donc si par exemple quelqu'un veut créer une chaîne YouTube, veut créer un média social, veut créer une plateforme ou un blog, on va vraiment définir son idée. Donc allant vraiment de l'envie, pourquoi je me suis lancée, parce que c'est important quand même, faut pas que ce soit juste une idée comme ça et après que ça passe, bien définir l'adéquation homme-projet et travailler avec nos partenaires à pouvoir définir le projet, comment je vais créer une page Facebook, un Twitter.
Alors il y a déjà une petite équipe qui est montée, N'Djamena, hein, c'est ça, il y a un cofondateur avec vous, il y a deux journalistes sur le terrain, vous êtes 4 ou 5, hein, quelque chose comme ça.
Oui, 5 pour l'instant.
Mais ces jeunes qui veulent monter un média, ils vont payer pour ce service, vous allez être quoi? Coach humanitaire, Sandrine?
Absolument pas. Il faut bien faire rentrer de l'argent. C'est pour cela que je disais que là où on va se rémunérer, ça va être sur la partie espace de coworking. Mais l'incubateur donc, qu'on fait, c'est vraiment... On a défini donc des forfaits donc, qui vont du forfait le moins cher au plus cher, en fonction aussi de l'entrée d'argent des personnes.
J'ai vu les tarifs.
Il y a le happy hour aussi. Oui,
mais attendez, 500 francs CFA de l'heure pour passer dans l'espace de coworking. Bon, ce sont des espaces qui n'existent pas encore vraiment, N'Djamena.
Pas du tout. Ça.
Pour venir travailler, rencontrer, réseauter, etc. Ça fait moins de 1 euro. C'est pas avec ça que vous allez... Il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de volume et beaucoup de passages, non?
Oui, c'est sûr. Mais ça, après, ça, c'est la partie espace de coworking, parce que pour la partie incubateur, on a d'autres...
Il y aura des abonnements aussi.
Oui, ça c'est... Oui, il y aura des abonnements. Et si aujourd'hui, on propose aussi un tarif passage, c'est pour ne pas non plus mettre le couteau sous la gorge aux jeunes. Ouais. C'est de dire que vous démarrez.
Par définition, ils démarrent, ils veulent tester leur idée, ils n'ont pas un centime.
Oui, on est d'accord.
certains peuvent avoir des fonds propres, mais il y a des abonnements au mois, il y a des salles de réunion qui peuvent être louées. Comment vous allez faire? Ça va être quoi le modèle économique? Et puis surtout... comment vous voulez vous adresser à Didier? Quels sont les problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre pour le moment, Sandrine, pour monter cet incubateur de médias, N'Djamena?
Alors déjà, nous, ce qui nous motive, c'est que, comme on le disait, c'est quelque chose d'unique au Tchad. Donc déjà, d'avoir un espace qui soit propice un peu à cet environnement-là de travail, à créer du réseau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais ils sont un peu dans leur coin. Donc c'est vraiment de faire un réseau autour de ça. Et nous, l'un des problèmes aussi, donc, c'est quand même le Tchad. Donc il y a tout ce qui est problème géopolitique, et aussi, on a, comme je le disais, le gouvernement nous aide pas assez, c'est de savoir déjà, moi la première question qui m'est posée, c'est de dire, est-ce qu'on démarre en tant qu'association ou une entreprise, parce que dans tous les cas, il faut faire rentrer de l'argent. Surtout si on demande un financement, ça va pas être non plus ça va pas être charitable, hein, il faut bien rembourser ce financement-là. Et c'est vrai que là, à ce niveau-là, on se pose un peu des questions. Donc, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est une entreprise? Comment le faire? Sachant que, bien entendu, il faudra quand même prendre en compte la législation sur place. Ça, c'est ma première question.
Effectivement, on en voit de plus en plus sur le continent, et notamment en Afrique de l'Est. Et il y a vraiment une nouvelle génération de jeunes Africains extrêmement talentueux qui rejoignent tout cet univers de technologie, de l'information et de blogs. Alors, dans votre cas précis, je serais tenté de vous dire qu'il faut créer deux entités. Il y a vraiment une partie qui est, à mon avis, allez, d'un peu de social, quoi. C'est vraiment de l'accompagnement social des jeunes qui peut avoir une forme associative avec lesquelles vous pouvez demander des subventions, même à des entreprises qui peuvent vous aider, des opérateurs de télécom, des opérateurs internet qui peuvent vous aider, voire même des entreprises qui peuvent vous mettre à disposition des espaces pour le coworking. Donc ça, ça a vraiment un caractère entre guillemets non marchand, même si une association peut gagner de l'argent, sauf que vous ne redistribuez pas, vous remettez tout dans la caisse, parce que ce n'est pas une société. En revanche, il y a une partie de votre activité que je sens assez marchande, qui est de l'accompagnement un peu de professionnels. Ouais, une fois qu'on a passé l'étape de « Ok, je veux créer une page Facebook, comment je fais ?» où on aide un peu le gars, s'il veut en faire un vrai business parce qu'il a un business derrière, là, votre entreprise, qui est une société de conseil, peut l'accompagner une fois qu'il a réussi à trouver un peu de ressources pour aller plus loin que ce que vous lui avez permis de faire sans perdre de l'argent dans le cadre associatif. Alors, dans une association, on a aussi le droit de rémunérer des gens qui travaillent. Hein, vous savez, c'est pas non plus du bénévolat à 100%. L'association peut employer des experts.
Donc, l'idée, c'est de dire à des jeunes, vous avez une bonne idée, on va vous aider à formaliser, à démarrer. Et ensuite, une fois que vous avez démarré, là, il va falloir payer pour continuer.
Et ben voilà, il faudra payer lorsque vous voulez en faire un vrai business. Parce que beaucoup de jeunes qui viennent aussi à vous ne savent même pas s'ils peuvent en vivre, s'ils peuvent faire un business de leur idée. Et vous allez donc les orienter, les conseiller, leur dire attention, ça existe, non, faut pas faire ça. Ça, dans un premier temps, c'est un service que vous ne pouvez pas facturer.
Oui.
Donc, l'association peut justement répondre à ce premier objectif, qui est de dire, je fais de l'accompagnement social auprès des jeunes.
Et ça veut dire qu'il faut se définir avec deux entités quand vous allez voir des partenaires. C'est ça, hein, Sandrine.
C'est exactement ça, mais c'est aussi le fait que, comme je disais, on s'est rendu compte en faisant le projet que si on faisait juste un incubateur média, comme vous l'avez dit, Didier, c'est qu'on ne peut pas au début taxer ça. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement sur la durée. D'où l'objectif d'inclure déjà un espace de coworking qui n'existe pas et qui serait vraiment un cadre formel pour pouvoir inciter à la création de réseaux, à des gens qui ont besoin d'un espace, tout simplement les jeunes, pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, N'Djamena, ça n'existe pas. Moi, quand je vais en vacances, je vois que si je veux travailler avec avoir un cadre pour travailler, il n'y a pas vraiment d'espace à ce niveau-là.
Autant que tel, un espace de coworking, N'Djamena, ça peut rapporter ou pas ?
Ah oui, ça existe. À Dakar, il y en a, à Abidjan, il y en a. Les jeunes sont prêts à payer un minimum si on leur apporte un minimum de services, pourvu que ce ne soit pas très cher. Et justement, le principe aussi, c'est de dire, on ne peut pas tout vous donner gratuitement. Si vous avez un vrai projet, que vous venez dans un espace de coworking, c'est vraiment parce que vous avez besoin de travailler, qu'on vous paye, ça veut dire que vous avez vraiment
un vrai projet.
Ça élimine les parasites.
Alors les autres questions.
Alors l'autre question, donc du coup, bien entendu, c'est le financement, qui est le nerf de la guerre.
Est-ce que vous avez déjà mis un peu de fonds propres ?
Alors les fonds propres jusqu'à aujourd'hui, donc c'est ce qu'on fait, donc parce que comme on a le média social Entreprendre l'Afrique qui fait toutes les initiatives portées sur le continent, là pour l'instant tout ce qui est déplacement, tout ce qui est petite organisation d'événements, on le fait de nos fonds propres, pardon. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut vraiment un financement global. Pour l'espace, et on ne sait pas où aller taper. Okay. Alors, surtout pour moi qui suis ici, même je ne sais pas du tout.
L'espace associatif, j'ai vu des modèles où justement, on a pris des partenaires, comme par exemple des opérateurs de téléphonie mobile,
oui. Voyez,
qui sont à la recherche justement de jeunes qui ont des idées nouvelles, qu'ils peuvent éventuellement incuber après, et qui sont prêts donc à financer ces espaces sous forme de sponsoring. Vous avez des établissements financiers qui font un peu de start-up de temps à autre, même si ce n'est pas leur spécialité, mais qui recherchent aussi des projets novateurs et qui sont prêts, dans le cadre de la RSE, à financer des espaces associatifs comme celui dont vous parlez. Donc, je pense que vraiment le modèle associatif, c'est des sponsors qui ont intérêt à avoir dans un espace dédié des jeunes qui développent des projets, qui peuvent avoir un intérêt pour l'entreprise, soit une institution financière, soit un opérateur télécom, soit quelqu'un qui fait de l'Internet, etc., etc. Donc, ce côté-là, c'est vraiment, il faut trouver des sponsors, parce que vous ne pouvez pas en vivre malheureusement dans un premier temps. La partie business, qui est un vrai business, lorsque vous aurez dit à votre financier, à votre banquier, regardez, on a un espace qui existe, qui accueille des jeunes, qui a un potentiel développement, ceux-là, je peux créer un modèle économique avec ces jeunes qui peuvent basculer dans le service marchand, le financier ou le banquier à assurance disant elle peut générer des revenus parce qu'elle a déjà une clientèle qui en plus existe, qui est visible. Il y a 100 jeunes qui passent à chaque fois dans l'association, qui ont des projets. Certains ont peut-être même de l'argent. Certains veulent même être incubés dans votre espace d'incubation qui devient payant avec des services dédiés où là, le financier se sent à l'aise parce qu'il sait que vous allez générer des revenus.
Donc, les deux structures se répondent elles-mêmes, en fait, par un système de bascule.
Les deux structures se complètent.
Se complètent.
Et c'est tout à fait compréhensible parce que vous avez un projet économique, mais qui ne peut voir le jour que si vous aidez ceux qui peuvent être des porteurs de projets demain. Vous savez, c'est comme dans les universités aux États-Unis. Les Facebook, etc. sont nés parce qu'à un moment donné, des gens sont venus les incuber en disant « c'est une merveilleuse idée ». On les a incubés, se sont développés. Et donc, de la même manière, en Afrique, il faut créer un peu plus de ces espaces qui donnent la visibilité aux porteurs de projets et ensuite de les transformer en business avec des business angels, etc., qui peuvent venir peut-être en appui, voire même du crowdfunding. Et vous vous souvenez qu'on a pris des jeunes qui avaient des projets, qui ont fait du crowdfunding, qui ont réussi à lever 100, 200 000 euros. Parce que
ça commence à marcher en Afrique,
réalité.
Le crowdfunding, en
donc
effet.
Alors,
Sandrine, vous avez une autre question, mais qui est plus spécifique.
Déjà, est-ce que sur le financement, ces deux pieds vous parlent, vous avez déjà testé et pas eu de réponse?
Pour le crowdfunding, donc on a une plateforme, Jama Funding, donc qui fait du crowdfunding financier, mais aussi pour du temps. Temporelle, qui nous accompagne sur la partie médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour les montants qu'on demande, nous, je vous avoue qu'on a été un peu refroidi parce que c'est vrai qu'on demande, pour la construction de cet espace, il nous faut environ 300 000 euros. Et 300 000 euros par du crowdfunding, c'est un peu compliqué. Le crowdfunding, je pense que ça, c'est plus intéressant pour des sommes qui sont plus basses.
Mais quand on arrive à... Pourquoi vous les construire?
Parce qu'à N'Djamena, il y a quasiment...
Là, vous êtes hébergé, mais vous êtes trop loin. Hein, en plus, vous êtes un peu excentré. Centré, je crois.
Par rapport
l'espace de coworking où vous êtes déjà plus ou moins, non? Où vous êtes hébergé?
Alors là, comme je le disais, donc notre partenaire principal, Wena Club, est sur place, donc ils sont dans un cadre informel, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est en plein marché de mille, et l'accès est difficile.
Donc
et
vous
c'est même
voulez du foncier et vous voulez construire un bâtiment?
Exactement, on veut du foncier.
Donc, à terme, vous pourrez le faire, mais alors aujourd'hui, soit vous dites, j'ai un projet immobilier, je veux construire un bâtiment, ou une maison, une villa, où je vais héberger des sociétés qui vont payer un loyer et en plus j'y héberge mon espace de coworking. Là c'est un projet immobilier et à ce moment-là vous créez une SCI avec des investisseurs et c'est un vrai projet dans le cadre de votre projet. Et vous hébergez l'espace coworking dans le bâtiment qui génère des revenus à travers des loyers. Ça c'est encore un autre projet mais que vous pouvez tout à fait développer. Mais demander, solliciter 300 000 euros ou 300 millions juste pour créer un espace de coworking, ça me paraît un peu difficile comme modèle de manière immédiate.
D'accord.
Vous faites de la location aujourd'hui, ça permet déjà d'avancer dans le projet, de montrer qu'il y a un business qui peut être généré. Et ensuite, en construisant un immeuble ou un bâtiment ou une maison ou une villa, où vous pouvez avoir des revenus réguliers qui vous permettent. Mais soit vous faites un projet immobilier, et là, je sais, en Afrique, c'est très à la mode de monter des immeubles, mais ça marche.
Mais il y a aussi des problèmes de foncier dans les villes africaines, et les gens ne parviennent pas à avoir les bâtiments dont ils ont besoin
si vous avez un terrain, il y a un vrai problème d'accès à l'immobilier dans toutes nos villes, que vous faites un projet immobilier, les banques aujourd'hui suivent parce qu'ils mettent le terrain en garantie, en collatéral.
On va en parler avec un autre projet, vous verrez tout à l'heure, Didier. C'est la surprise. Pour l'heure, il faut bientôt qu'on rende l'antenne. Alors, bien sûr, Sandrine, vous êtes venue, vous êtes déplacée, vous êtes dans le studio à Paris. Vous restez avec nous pendant toute l'émission. Vous pouvez tout à fait dialoguer avec d'autres porteurs de projets. Je sais que vous avez d'autres questions à poser à Didier. Vous allez les poser pendant le flash. On accueille un autre voisin porteur de projet qui nous appelle. C'est Auguste qui est à Libreville. Bonjour, Auguste.
Bonjour Emmanuel.
Auguste, vous avez 22 ans, vous êtes à Libreville. En fait, vous vivez très précisément à Antoum. Et il y a beaucoup d'ordures à Antoum. Expliquez-nous juste en quelques mots avant qu'on rende l'antenne pour le flash. Et bien sûr, on vous retrouve après.
Ok. Dans ma commune, nous avons un gros problème qui est l'insalubrité.
Oui.
Et il n'y a pas de société de ramassage d'ordures. Et du coup, les gens jettent les tout derrière chez eux.
Ouais. La presse en parle régulièrement, de ce problème de ramassage d'ordures, notamment sur la commune de Ntoum qui est tristement célèbre. Vous restez avec nous, Auguste, parce que justement, vous répondez aux besoins de la population en montant une entreprise qui a un an maintenant de ramassage d'ordures. À tout de suite.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, avec les conseils du coach Didier Akwété qui est dans le studio de RFI pour dialoguer avec vous au sujet de vos projets pour l'Afrique. Vous êtes un jeune diplômé, vous avez envie d'entreprendre ou même vous avez déjà démarré un projet, une entreprise. Vous avez évidemment, souvent vous n'arrivez pas à grossir, vous avez en tout cas des idées pour le continent.
Vous êtes un vieux patron aussi. Hein.
Comment ça, un vieux patron? Non, ça c'est vous Didier. Non, les vieux patrons, non, il n'y a que vous. En tout cas, Didier a de l'expérience et c'est vous qui faites avancer. C'est le continent aujourd'hui tellement vite que ce qu'on disait pendant le flash avec Didier, c'est que parfois on n'arrive pas à suivre le mouvement en Afrique. En tout cas, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On a eu la visite d'une voisine qui est toujours dans le studio, Sandrine Franco-Tchadienne, et qui veut monter un incubateur pour tout jeune média à N'Djamena, et qui interrogeait Didier sur le modèle économique et la structure aussi juridique de son entreprise. Et nous accueillons Auguste, à qui nous avons juste fait un petit coucou à Libreville avant le flash. Bonjour Auguste.
Bonjour Emmanuel.
Auguste, 22 ans.
Bonjour Auguste.
Donc vous êtes à Libreville, enfin très précisément dans la commune de Ntoum qui est dans la banlieue de Libreville. Et vous avez monté il y a presque un an maintenant une entreprise privée de ramassage d'ordures parce que vous nous le disiez juste avant le flash, eh ben ça sent pas la rose hein, à Ntoum finalement. Donc vous répondez à un vrai besoin de la population. Au départ c'était un tout petit ramassage d'ordures je crois avec des brouettes. Maintenant vous avez un véhicule qui est loué à un particulier, c'est bien cela ?
Oui.
Et alors, ramassage d'ordures deux fois par semaine dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Hein.
Oui, effectivement.
Bon, si c'est pas vrai, les voisins, vous nous appelez. Hein, 33, je redonne le numéro. 33 84 22 71 71. Alors, ramassage d'ordures à condition de payer pour ce service. On est bien là dans un service privatisé. Hein. Auguste, êtes-vous toujours en ligne avec nous ?
Allô, oui.
Oui, Auguste, donc les familles ou les commerçants payent pour ce service de ramassage auprès de votre entreprise?
Oui, le projet, on fait le ramassage deux fois dans la semaine, donc le mardi et le vendredi.
Oui.
À raison de 6 000 francs par mois pour les ménages et 8 à 10 000 francs par mois pour les opérateurs économiques.
Donc en gros, donc, de 9 euros à 15 euros en fonction de si on est ménage ou commerçant.
Oui. Donc, le nom du projet, c'est ProService, entreprise privée de ramassage d'ordures. Et dans un premier temps, nous sommes d'abord allés voir le maire du deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Il nous a donné l'autorisation d'exercer pour une durée de 3 mois. Donc, nous avons dépassé ce délai. Et il nous disait qu'il devait avoir une société qui devait venir s'occuper du ramassage ici. Cette société n'est jamais venue. Et du coup, on s'est lancé dans le ramassage.
Donc, comment profiter du vide, hein, finalement?
Voilà. Donc au début, au départ, on ramassait avec des brouettes. Et maintenant, on a un véhicule qu'on loue à un particulier pour transporter les ordures.
Alors en 8 mois, vous êtes passé de 20 à 50 clients.
Oui, on a commencé avec 20 clients. Aujourd'hui, nous sommes à 50 clients. Et à chaque ramassage, on laisse des sacs poubelles pour éviter que la population ne jette encore des ordures derrière et tout. Donc, on se réunit pour le moment chez moi, à la maison, au terrain familial. Et nous sommes une équipe de 5 personnes. Et tous nous contribuons au ramassage.
C'est ça, vous êtes 5 et en gros, il n'y a pas de patron, tout le monde ramasse. Hein.
Voilà, effectivement. On a fait une petite organisation, mais ce travail n'est pas vraiment respecté.
Oui. Ah, d'accord. C'est un de vos problèmes, parce que vous avez pas mal de problèmes. Ce qui est sûr, c'est que la demande est là. Hein. Vous avez plus que doublé votre nombre de clients en quelques mois. Vous êtes parvenu maintenant à louer un véhicule pour faire le ramassage, une petite camionnette. Et vous vous sentez un peu bloqué. Expliquez-nous, plutôt posez vos questions à Didier, qui vous écoute attentivement.
Ok. J'ai 3 questions pour le coach. La première question, c'est vers qui s'est tourné pour le financement de l'achat de notre véhicule, parce que ça demeure toujours le gros problème aujourd'hui, le problème du transport. Et la deuxième question, c'est comment étendre le service aux autres communes et comment développer une bonne stratégie client.
Alors, dans un premier temps, aux autres arrondissements de Ntoum et à terme aux autres communes de Libreville.
Effectivement.
Et puis ?
La dernière question, comment bien organiser notre équipe ?
C'est-à-dire ?
Pour que nous puissions, chacun puisse avoir son rôle, quoi.
Parce que là, ça ne fonctionne pas comme vous souhaiteriez ?
Non, parce que C'est même pas moi, j'ai confié la tâche à une autre personne de s'en occuper parce que vu que peut-être commençait trop familiarisé, donc lorsque j'ai dit quelque chose, c'est pas fait, personne ne respecte.
Ah oui, d'accord. Problème d'autorité du patron. Bon, alors
ça,
les besoins.
On verra ça après.
En tout cas, non, pour l'instant, vous ne perdez pas d'argent, vous en gagnez.
Pour l'instant, bon, on gagne, on perd, hein, parce que tout va dans le véhicule qu'on loue.
Eh
donc.
Oui.
Si on fait un tour, le tour c'est 10 000 francs. Si on fait un tour, on donne 10 000. Si c'est deux ou trois tours, vous voyez qu'on est vraiment pénalisé.
Oui, mais vous arrivez à payer les salaires.
Vous,
Didier,
vous réalisez quel chiffre d'affaires à peu près aujourd'hui, par mois?
Par mois, on est 200 000, hein, 211, 230.
230 000 francs CFA par mois,
oui,
le chiffre d'affaires.
Oui.
Ok. Et la location du camion vous coûte combien par mois?
80 000.
Très bien.
80 000 lorsqu'on est, on fait seulement un seul tour. Mais ça peut varier, on peut faire deux tours ou trois tours, donc on arrive à 120 000 à la fin du mois pour le transport.
Ok. Alors, ma première observation, c'est que le ramassage d'ordures, c'est vrai en principe, c'est l'État qui en a la responsabilité et qui le délègue éventuellement à une société privée. Oui. Dans le cas d'espèce, la première des choses que je vous recommanderais, même si vous pouvez le faire... pour répondre à un besoin qui est réel dans toutes nos villes, il faudrait s'assurer que la mairie avec laquelle vous avez donc pris ce premier engagement vous formalise réellement le droit d'exercer cette activité, peut-être sur 12 mois ou 24 mois, bref, que vous sécurisiez sur le plan contractuel le droit de ramasser les ordures dans la ville. Parce que, vous le disiez en introduction, une société devait venir et qui n'est jamais arrivée. Donc, à tout moment, cette société peut débarquer et du coup, votre service n'aurait plus de raison d'exister si la société qui arrive le fait bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour financer votre camionnette, vous devrez probablement aller vous endetter. C'est-à-dire, vous allez voir une banque pour dire... prêter l'argent pour acheter un véhicule de ramassage d'ordures. Quel est le coût du véhicule neuf, Auguste? Combien ça coûte?
Ou un véhicule d'occasion à l'achat.
Coût, enfin, en moyenne, quel est le coût d'acquisition?
Je ne sais pas, je ne suis pas encore me renseigner, peut-être dans les 2 millions ou 3 millions.
Bon, il faut vous renseigner d'abord, parce que ça c'est la première question, quand on fait un projet. Donc vous aurez dû me donner le prix du véhicule. Pourquoi je vous dis ça?
Avec 200 000 francs CFA de chiffre d'affaires par mois, on peut aller voir un banquier? Sérieusement?
Si la camionnette coûte 1 ou 2 millions, c'est pour ça que nous allons parler du modèle économique. Selon le coût d'acquisition du véhicule, parce qu'Auguste peut dire, si j'ai ce véhicule, je peux faire plus de tournées. Donc je peux faire 1 million de chiffre d'affaires ou 2 millions ou 3 millions. Donc le banquier va regarder ces chiffres et dire, son projet est viable parce qu'il a une concession de 12 ou de 24 mois avec la mairie, il peut ramasser avec le camion, il peut générer... tant de chiffre d'affaires. Donc, le financement de votre camion, qu'il soit neuf ou d'occasion, va forcément passer par le système financier. C'est-à-dire, soit vous allez faire du crédit bail, par exemple, ou vous allez voir une banque qui va vous financer le véhicule, parce que la banque, elle est sûre que si ça ne marche pas, elle peut toujours revendre la voiture. Donc, elle a une sorte de garantie, une sorte de collatéral, entre guillemets. Même si son objectif, ce n'est pas de revendre des véhicules. Mais au moins, elle a un actif sur lequel elle peut miser si jamais vous faites défaut. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire de la dette, donc financer le véhicule, parce que c'est le seul moyen que je vois aujourd'hui, vous devez avoir un business plan qui permet de dire « je peux rembourser les crédits sur le véhicule à hauteur de temps chaque mois ». Deuxième option, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de banquier qui veut vous suivre, vous pouvez tout à fait, dans le cas de la RSE d'une entreprise, demander à ce qu'on vous offre un camion d'occasion qui fait du ramassage d'ordures, si vous payez le transport et la douane, et du coup, vous économisez en investissement si vous trouvez un véhicule d'occasion qu'une société veut bien vous donner.
Ça, ce sont des éléments de réponse pour la première question.
La
comment
deuxième
étendre,
question.
Comment s'étendre aux autres communes autour?
C'est très simple. Il suffit d'aller voir les mairies comme il l'a fait, le maire, en disant j'ai une société qui ramasse des ordures, si vous me donnez, me faites un contrat...
Voilà,
j'ai doublé
mon nombre de
service.
Clients en 8 mois dans cet arrondissement-là.
Bien sûr. En plus, maintenant, j'ai un camion, vous voyez, c'est très professionnel, mes gars sont
habillés. Vous dupliquez, c'est tout simple.
C'est aussi simple que ça, mais il faut déjà que le premier modèle fonctionne.
Ouais. Un petit mot sur le management quand même. Il a un problème de management, Auguste. Comment organiser l'équipe pour que chacun ait son rôle? Parce que j'ai l'impression que là, c'est bien, parce que tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire, ou la main aux ordures, mais en même temps, à un moment donné, il faut peut-être que ça soit un peu plus structuré.
Alors, il y a une organisation qui est formelle, donc je suppose qu'ils ont confie une équipe en disant, eh ben, toi, tu ramasses les ordures, toi, tu t'occupes des bennes, toi, tu ramasses l'argent, toi, tu vas... Enfin, bref, il y a, je suppose, un minimum d'organisation. Alors, c'est vrai, Auguste, le propre d'une organisation, d'une entreprise qui naît, c'est que on ne fait pas forcément ce qui est destiné à tout le monde, donc l'organisation n'est pas parfaite. Pour l'instant, à mon avis, ce qui est essentiel, c'est que vous facturez ce qu'il faut comme service, les ordures soient ramassées, que vous les incinériez, ou vous les brûliez, ou que vous les entassiez. Bref, il faut déjà que l'organisation...
Ouais, c'est un autre problème, hein, qu'est-ce qu'on fait
business...
des ordures, oui.
Non, mais il faut déjà que son business fonctionne, et il pourra se concentrer sur l'équipe de manière plus structurée quand ils sont un peu plus nombreux.
On fera dans quelques jours une émission sur les décharges à ciel ouvert en Afrique. Il y aurait beaucoup à dire, mais vous n'en êtes pas responsable pour le moment. Auguste, on aimerait bien que vous nous postiez sur Facebook des petites photos du camion, de l'équipe qui ramasse. On aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Auguste.
Et Auguste, vous pouvez avoir la main d'œuvre gratuite. Vous savez, quand vous faites les journées ville propre, là où vous ramassez les ordures, tout le monde s'y met.
Ça marche très bien en Rwanda.
De la main-d'œuvre gratuitement avec les populations. Hein.
Très bonne journée, okay, Auguste. Ça va, ça, on a été utile?
Oui, très utile, merci.
Vous avez pris des notes. Bon, bien sûr, vous pouvez réécouter l'émission sur le site RFI.fr. Vous nous tenez au courant, bien sûr, hein, comment vous allez grandir avec cette petite société et pro-service dans la commune de Ntoum à Libreville. Très, très bonne journée au Gabon. Nous accueillons maintenant un voisin qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour à vous.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez 36 ans. Vous êtes mauritanien. Vous vous êtes installé à Bissau, donc la capitale de la Guinée-Bissau, en 2009. Hein, vous êtes arrivé pour trouver du travail. Vous étiez comptable. Vous avez travaillé pour un importateur alimentaire. Vous avez travaillé dans une banque. Et puis, vous êtes devenu professeur d'informatique à l'université publique à Bissau. Et puis, vous avez monté votre école privée d'informatique et de gestion. Vous avez vraiment un parcours intéressant à Bissau. Cette école, elle répondait à un vrai besoin, une vraie demande des entreprises à Bissau.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Effectivement,
à vous.
C'est un besoin intéressant et qui est là, que tout le monde regarde et qu'il n'y a pas... Y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas de gens qui sont là pour solutionner le problème. Ouais. Moi, je me suis lancé sur le défi, en fait.
571 étudiants aujourd'hui, quand même, hein, en
oui,
3 ans. C'est
oui.
La quatrième année, là. Alors, vous avez 6
oui.
filières. Il y a de l'informatique, il y a de la finance comptabilité, il y a du marketing, du commerce international, il y a des ressources humaines, il y a du tourisme. Vous proposez des stages aux étudiants. Il y a une vraie proximité avec les entreprises. Hein. Je crois que vous faites des portes ouvertes pour que les entreprises viennent visiter l'école?
Absolument. Actuellement, plus de 20% de nos étudiants, même ils sont déjà en train de préparer les mémoires, sont déjà en stage, hein, à Orabank, à Zalaï Hotel, Ecobank, etc. Pour vous dire que la qualité de service, de la formation que nous sommes en train de faire n'est pas négligée.
En fait, vous ne parvenez pas à répondre à toutes les demandes d'étudiants, c'est-à-dire toutes les demandes d'étudiants que vous aimeriez accueillir, qui ont le niveau, qui payent en moyenne entre 30 euros par mois et 45 euros par mois en fonction de si on est en première, en dernière année. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas satisfaire toute la demande.
Oui, c'est pas possible de toute façon, parce que déjà, le niveau du pays est un peu différent de tout ce qu'on voit dans la sous-région. Donc, ce qui fait que les gens ne payent pas une valeur qu'on peut vraiment s'en... Et puis, en plus de ça, il y a les difficultés de paiement, parfois, qui peuvent arriver, hein, que les gens ne payent pas régulièrement. Mais néanmoins...
Vous parlez des étudiants qui ne parviennent pas à payer les frais d'inscription régulièrement.
Régulièrement. Par exemple, dans les 100%, vous avez au moins les 60% des recettes. Les 40%, vraiment, c'est un peu... Ça arrive à compte-gouttes. Parfois même, ça n'arrive pas parce que les gens n'ont pas les moyens de payer comme il faut.
Ah oui, c'est ça. Vous m'avez dit
c'est des problèmes.
Quand vous êtes censé attendre 14 millions de francs CFA de recettes par mois, vous ne pouvez compter que sur 12 millions. C'est embêtant quand
oui,
même.
Oui, c'est 12 millions. Donc, les 2 millions, quand même, dites-vous que c'est des dettes, hein.
Oui.
Vous pouvez les espérer avoir plus tard, ouais.
Mais
donc,
alors, malgré tout ça,
il faut envoyer les 12 millions.
Vous arrivez à payer vos profs, tous vos employés?
Absolument, absolument. Nous n'avons pas de problème particulier sur le fonctionnement. C'est-à-dire, on paye les profs, on paye toutes les dépenses, les loyers, etc., les charges fixe et extra fixe.
Alors le loyer, c'est dingue. Hein. J'ai vu le prix de votre loyer pour faire vos salles de cours. Vous payez 2 300 € par mois, c'est 1,5 million de francs CFA par mois pour le bâtiment dans lequel vous avez votre école, dans un quartier résidentiel de Bissau.
Oui, c'est un quartier très intéressant parce que c'est calme, donc il n'y a pas de dérangement, mais le bâtiment aussi fait partie des meilleurs bâtiments. Donc moi, j'ai exigé que ça, d'abord la qualité de ça pour pouvoir donner le meilleur service que nous voulons.
Alors, quelles sont les questions que vous vous posez à l'heure actuelle, compte tenu, bon, finalement, votre boîte, elle tourne, mais quelles sont les questions qui se posent à vous à l'heure actuelle pour avancer?
Alors, je m'adresse à Didier. Donc, bonjour Didier.
Bonjour,
mes questions sont les suivantes. Comment trouver des actionnaires ou bien des financements afin de trouver, par exemple, un terrain et puis construire, par exemple, l'établissement de Bimantex? Et dans l'autre côté, des partenaires crédibles dans le domaine de l'éducation, à savoir les universités ou les écoles de commerce, pour pouvoir un peu crédibiliser en plus de nos diplômes que nous allons remettre aux étudiants, aux diplômés. Comment éviter les dettes importantes sur ce genre de projet que nous avons? Et surtout aussi, comment équiper, par exemple, une bibliothèque digne de ce nom, hein? Parce que ça pose un problème aussi quelque part. Alors, il ne s'agit pas d'avoir l'argent.
Eh oui, il y a aussi le problème de la langue. Hein. Je sais que vous misez beaucoup sur la langue française pour vos étudiants, parce que quand vous êtes à court, en pénurie de professeurs, vous en faites venir certains de Ziguinchor, pays voisin, le Sénégal,
proche,
la Casamance, hein,
et
qui viennent du coup donner des cours en français. Donc tous vos étudiants sont capables de comprendre des cours en français dans votre école de commerce à Bissau, alors qu'ils sont lusophones, ce qui est plutôt pas mal.
Parce qu'ils sont dès le départ, ils sont préparés sur ça, c'est-à-dire qu'ils doivent être bilingues, parce que d'ailleurs le secteur
bissau-guinéen,
le secteur privé bissau-guinéen, c'est plus francophone. Donc s'ils sortent, ils sont obligés de parler français pour mieux travailler dans les secteurs privés, par exemple. Le portugais, c'est plus dans le gouvernement, dans la fonction publique. Donc ça, on les prépare déjà, et en plus, s'ils souhaitent travailler dans l'OMA, la CDAO, BCAO, tout ça, il faut comprendre le français ou l'anglais, etc.
Voilà. Alors Didier Akouété, qu'est-ce que vous suivez depuis de longues années, la percée de l'enseignement supérieur privé en Afrique francophone notamment? Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'école qui fonctionne, qui a une renommée, qui a la confiance des étudiants, la confiance des entreprises et qui pourtant ne parvient pas à grandir?
Alors, ça me rappelle un peu l'histoire de l'ISM qu'on connaît si bien, qui est aujourd'hui un vrai succès en Afrique.
À Dakar.
Et le modèle d'Abdou, en fait, c'est un modèle qui doit fonctionner à terme. C'est vrai que c'est une période assez difficile qu'il passe, parce que vous êtes dans un cycle où vous êtes en croissance, sans ressources qui vont avec pour assurer votre croissance. Et effectivement, vous avez besoin de renforcer vos fonds propres. Alors, je pense qu'il y a deux manières de voir la chose. Soit vous regardez comment vous générez des revenus supplémentaires et complémentaires, et parallèlement, vous vous faites accompagner par une banque ou un fonds d'investissement. Sur le premier volet, pourquoi je vous dis comment diversifier vos sources de revenus? Aujourd'hui, si vous ne faites que du cycle du cycle de base, ceux qui arrivent en première année, étudiants, repartent en cinquième année, vous êtes sujet, malheureusement, aux limites financières des familles qui, c'est vrai, vous le constatez, ne paient pas forcément tous les mois.
Sachant que je crois que vous avez une grosse partie de vos étudiants qui ont des petits boulots par ailleurs pour payer les frais d'inscription, les frais de cette école.
Ouais. Et il faut savoir que plus de 15% des ressources des familles vont dans l'éducation des enfants. Ça, c'est le minimum.
Donc vous proposez de la formation professionnelle pour des cadres, par exemple?
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour générer des revenus complémentaires, c'est bien de diversifier vos sources de revenus. Allez vers les entreprises en proposant des formations professionnelles continues sur des durées courtes. Exemple, management d'une institution bancaire, et vous attaquez toutes les banques, et sur 2 semaines, les cours du soir, vous recevez les auditeurs professionnels. Management de l'industrie hôtelière, vous allez voir Azalaï. Bref, vous prenez des secteurs dans lesquels il y a des besoins spécifiques ou des besoins transverses ou management de projet. Parce que les entreprises payent plus facilement que les familles a priori, donc, parce que ça répond à des besoins professionnels précis.
Donc, un cycle de formation court en parallèle de, du travail des cadres dans la journée.
Exactement, et vous le faites le soir, du coup ça vous permet en plus d'utiliser votre infrastructure le plus possible. Et ça, ça va vous générer des revenus complémentaires. Peut-être que vous le faites déjà, mais en tout cas, c'est une première piste.
Vous ne le faites pas ça à bout, hein, de la formation professionnelle pour les cadres pour le moment?
Pour Orange, où ils avaient besoin d'informations en Excel, c'est-à-dire en informatique de base pour leur personnel. Et le reste, c'est sûr que ça va suivre.
Oui. Donc, monter des modules pour les professionnels que les entreprises peuvent vous payer parce que, au moins, elles vous paieront, en principe, régulièrement. Deuxièmement, sur la partie financement, c'est vrai que vous allez être coincé rapidement. Les modèles que j'ai vus, c'est où ? Un financement bancaire, j'ai vu que vous avez introduit un dossier. Il faut aller au-delà, parce que ce qui rassure le banquier, si vous avez des revenus réguliers, en gros, il est sûr que le financement qu'il vous octroie, vous avez des revenus réguliers pour les rembourser. Vous pouvez même titriser ces revenus, c'est-à-dire, on ne va pas utiliser le terme barbare, mais en gros, vous faites des titres pour qu'on finance votre investissement, et en fait, les titres sont représentés par les paiements des étudiants tous les mois ou des entreprises qui envoient leurs étudiants. Troisième piste qui rejoint le financement, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux fonds d'investissement veulent investir dans le système éducatif. Actuellement, je parle, il y a trois fonds qui nous demandent de leur trouver des établissements dans lesquels ils peuvent investir, des établissements sérieux, qui sont sur des marchés en croissance, où ils peuvent mettre des ressources. Et là, effectivement, ça vous apporte des fonds propres. Donc,
Est-ce qu'il n'est pas trop petit pour intéresser un fonds d'investissement?
Non, mais c'est le potentiel de croissance. Il y a des fonds qui n'interviennent pas forcément avec des millions de dollars. Donc il faut aller vers des petits fonds qui veulent faire croître un business sur une population. À Bissau, c'est quoi, 5 millions d'habitants?
Donc, non, même pas, c'est 1 500 000 bientôt.
Non, mais je
millions,
vous dis, donc 1 million, donc c'est un peu plus
même. Bon,
donc, vous voyez, vous avez une population, 50% qui a moins de 25 ans, certainement, comme dans tout le pays,
qui a besoin d'étudier
un système éducatif. Donc le marché, en fait, est pour vous. Et vous avez installé une école de référence sur laquelle vous pouvez amplifier. Donc l'investisseur va regarder le potentiel de développement de votre business. Les partenariats avec les écoles, c'est relativement simple. Si vous avez une école à succès, aujourd'hui déjà, faites des partenariats avec des écoles, des grandes écoles dans la région, par l'ISM par exemple, qui vous emmènent ensuite vers des écoles internationales, en France, aux États-Unis, en Asie. Et aujourd'hui,
ou vers la zone lusophone, vers le Mozambique ou d'autres pays.
Oui, exactement. En tout cas, il y a un fort appétit, comme vous le savez, pour des formations délocalisées en Afrique avec ces écoles.
Donc monter des partenariats parce qu'ensemble ils sont plus forts, c'est bien ça.
Vous ne devrez pas avoir ces difficultés pour avoir accès à ces partenariats.
Abou a peur de l'endettement. Là pour le moment il a eu un prêt bancaire il y a déjà un petit moment.
3 millions l'année de démarrage, oui.
Voilà, que vous remboursez sans problème.
Non, la dette n'est pas quelque chose de négatif dans le développement d'une entreprise. La dette est un effet de levier. Donc ça vous permet de financer votre investissement qui vous permet de générer plus de revenus. Maintenant, si votre taux d'endettement est trop élevé, effectivement, c'est que vous ne pouvez pas rembourser. Mais la dette, excusez-moi, c'est un effet de levier pour votre développement si vous pouvez rembourser la dette et que le banquier ne vous tue pas avec les taux d'intérêt. Mais évidemment, si vous faites rentrer un financier, un fonds d'investissement par exemple, il vous prend une partie du capital, c'est pas de la dette. Il peut apporter un peu de dette, mais prendre aussi un peu d'equity, comme on dit dans votre business.
Je vous sens hyper enthousiaste sur ce projet, Didier.
Mais parce que c'est l'avenir, la santé, l'éducation, c'est des secteurs qui vont exploser sur le continent. Il faut éduquer les centaines de millions d'Africains qui sont sur le marché. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'institut d'excellence.
Qu'est-ce que vous répondez à un banquier qui vous dit que, écoutez, il faut travailler quand on vous voit que vous êtes bon, on va nous-mêmes venir vous chercher. Un banquier qui vous dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour le moment de vous prêter, mais il attend que vous réussissez.
Mais ça veut dire que ce n'est pas un bon banquier. Un bon banquier, c'est celui qui anticipe, c'est celui qui voit qu'il y a un potentiel de business. Vous savez, c'est comme ceux qui vont dans la forêt amazonienne, et puis il y en a un qui dit, ils n'ont pas de chaussures, il n'y a pas de marché, et l'autre dit, mais ils n'ont pas de chaussures, formidable, je vais pouvoir vendre plein de chaussures à ces gens qui ne portent pas de chaussures. Donc votre banquier, c'est celui qui pense que, comme les gens ne portent pas de chaussures, il n'y a pas de marché. Donc ce n'est pas un bon banquier. Et c'est pas la peine de donner son nom.
Et puis vous êtes en contact avec des entreprises privées qui recrutent
des
étudiants.
Et puis des étudiants qui payent. Voilà. Et des étudiants qui peuvent payer. Donc, je veux dire, c'est pas un bon banquier.
Bon, avec tout ça à bout, on est complètement fascinés par ce projet, d'ailleurs par tous les autres projets de l'émission aujourd'hui. Mais du coup, on était censé faire une petite chronique sur le modèle économique, un chapitre très important d'un business plan. Je vous remercie en tout cas beaucoup à bout de nous avoir appelé. Et puis, bien sûr, vous nous tenez au courant. Longue vie à cette école qui s'appelle, allez, on va rappeler le nom quand même de votre école de gestion et d'informatique à Bissau.
Bimantex. Oui.
Bimantex.
Bissau International Management and Technology School.
Voilà. Que je visiterai la prochaine fois si je viens à Bissau.
Voilà, un Mauritanien qui réussit à Bissau. C'est ça la mobilité africaine et les progrès du continent. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il nous reste allez, une minute pour parler du modèle économique dans le chapitre 1 des chapitres les plus importants quand on fait son business plan. Pour aller voir un banquier, ça peut servir.
Oui, en fait, c'est très simple. Et souvent, on challenge nos candidats sur le modèle économique. En gros, on a besoin de savoir qui va payer, combien il va payer, quand est-ce qu'il va payer et sous quelle forme il va payer. Si vous n'avez pas répondu à ces quatre questions et qu'à la fin, vous dites ce qui va m'être payé sur le cycle de paiement que j'ai défini me permet d'en vivre et de faire tourner ma boutique, il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas créer l'entreprise si dans le modèle économique, vous n'avez pas bien défini celui qui paye. Et bien souvent, il y a des superbes idées, mais on ne sait pas qui
alors,
va payer.
Qui, ou alors, quand
qui, quand, comment et sur quel terme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a eu des projets, par exemple, où on disait « projet formidable », mais en fait, vous faisiez le banquier à la place du banquier. Donc, vous souffriez en trésorerie et vous fermiez. Ou alors, le modèle économique... Le prix était attractif, comme par exemple pour Sandrine, les jeunes qui ne peuvent pas payer, le modèle ne peut pas survivre, donc il faut des sponsors.
On retrouve votre chronique, bien sûr, sur Internet, sur le site RFI.fr. Merci beaucoup Didier Akouété. Pour les voisins qui n'ont pas pu passer aujourd'hui, bien sûr, vous nous contactez à 7milliards@RFI.fr où on vous rappelle si vous avez appelé pendant le standard. À demain les voisins, merci à vous tous.